Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
J'ai un fichier vidéo assez surprenant qui devrait t'intéresser.
C'est quoi ça ?
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à deux cinéastes français indépendants qui montent des projets vaille que vaille et qui nous sortent des films, ma foi, fort intéressants. On commencera l'émission par une rencontre avec Florian Goujon. Alors Florian Goujon, il est le réalisateur d'Occulte. Occulte qui est disponible en Blu-ray donc, chez Metaluna, à Paris, rue Dante, hein, bien sûr, l'adresse préférée des amateurs de cinéma de genre et fantastique de la capitale. Et donc il a réalisé Occulte, il a réalisé sa suite, Occulte 2023, deux documentaires de haute tenue dont il va venir nous parler dans l'émission. La deuxième partie de l'émission, nous allons la passer avec Fabrice Mathieu, qui est déjà venu dans notre émission il y a quelques années pour évoquer ses premiers méfaits, les courts-métrages Dans l'ombre et Mémoire vive. Et là, il revient avec un nouveau projet alléchant, Dans sa bulle. Un projet très ambitieux dont il va nous parler longuement. Et ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie David Didelot pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. Nous allons donc, dans cette première partie d'émission, aborder l'œuvre de Florian Goujon. Alors Florian Goujon, c'est un pompier dans le civil qui a décidé de nous réaliser là, deux documentaires, Occulte et Occulte 2023, deux documentaires très efficaces ou avec une post-production très réussie, des films tournés à l'iPhone pour des budgets dérisoires, hein, on va en parler avec lui, et qui pourtant font leur effet, hein, ça fonctionne très bien. On sent qu'il y a une vraie vision de metteur en scène, même si les acteurs ne sont pas professionnels, même si le budget n'est pas important, ce n'est pas grave. Il arrive à transcender tous les éléments qui d'habitude handicapent ce type de cinéma pour en faire autre chose et pour en faire deux fun footage qui, ma foi, sont parmi les... comment dire... ce qui se fait de mieux dans le cinéma indépendant, qui regorge ce type de petits films, hein, de fun footage un peu fauché, un peu bon, voilà. Et avec notre ami Florian Goujon, on passe un peu à une autre dimension. On arrive à quelque chose qui est vraiment ambitieux. D'ailleurs, le deuxième fait 2 heures, le film fait bien 2 heures, hein, donc c'est assez ambitieux. Mais bon, le plus simple, de toute façon, hein, pour parler de Occulte et Occulte 2023, c'est d'entrer en relation avec Florian Goujon via cet incroyable instrument qu'est le téléphone. Alors tout de suite, Florian Goujon au micro de Culture Prohibée. Alors on a des petits problèmes de liaison, donc par moments ça coupe un peu, on s'en excuse, hein, mais vous allez pouvoir quand même écouter les propos de Florian Goujon, donc réalisateur d'Occulte et Occulte 2023, de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour Florian Goujon.
Eh bien, bonjour Jérôme.
Alors, tu es aujourd'hui avec nous dans l'émission Culture Prohibée pour aborder deux films, Occulte et sa suite, donc Occulte 2023. Occulte avec un K, je précise, un O-K-U-L-T. Occulte, le premier du nom, d'ailleurs, est disponible en Blu-ray chez l'ami Bruno, que l'on salue, hein, chez Metaluna. Hein, donc, n'hésitez pas à vous précipiter sur le film. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question, Florian, puisque tu es un jeune metteur en scène, hein. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu... parce que tu n'es pas cinéaste dans la vie quotidienne, et qu'est-ce qui a motivé le fait que tu te dises, tiens, moi, je vais faire un film, en plus assez ambitieux, mais ça on y reviendra après, je vais faire un film, je vais me mettre à faire un film, voilà, je vais l'appeler Occulte, et puis est-ce que tu avais déjà tâté un peu de la réalisation avant et tout, parce que c'est... voilà.
Alors j'étais dans un groupe, alors par passion, hein, dans un groupe de métal qui s'appelle Lefty, et j'ai réalisé quelques clips, mais vraiment en amateur, quoi, sans aucune connaissance des techniques et des us et coutumes d'usage, on va dire. Donc c'était en amateur, en profane même, on peut dire. Et puis ça en était resté là. Et puis 2020, il y a la période de Covid. Je suis pompier, donc dans mon boulot, on reste cloisonné, cantonné dans nos chambres, on peut pas bouger, on peut pas sortir, on peut pas faire de sport, pas de manœuvre, on est en stand-by, quoi, tout simplement. Par exemple, quand on mange le midi, on a chacun une table, alors que d'habitude, on est sur une table où on est tous ensemble. Et puis là, on se fait carrément chier, quoi, on s'emmerde. Et l'échappatoire, c'est de faire un court-métrage. Donc je dis aux gars, on va faire un court-métrage, alors on va respecter les distances de sécurité, etc. Donc c'était un peu rigolo, quoi. Et puis ça nous occupait, et c'est parti de ça. Alors le court-métrage est devenu moyen-métrage, parce qu'entre-temps, la période de restriction s'est assouplie. On a pu faire quelques scènes en extérieur, et du coup, c'est devenu un moyen-métrage. Et quand on a présenté le film, le soir, tu sais, on est cloisonné, hein, on est cantonné dans notre salle de télé, on l'a présenté. Et puis les gars étaient super contents et ils ont demandé de faire une suite. Donc c'était plutôt un thriller et la suite c'était plutôt un film fantastique. Donc j'ai voulu changer un peu de genre parce que c'est celui qui me correspondait le mieux. Alors on a hésité sur un film comique, mais comme on allait tourner en found footage, c'est-à-dire que la caméra allait en train de suivre des acteurs, on aurait fait pas le figure à côté de films comme Babysitting par exemple qui utilise de manière excellente ce style de film de genre. Donc on est parti sur un film classique, fantastique, avec les copains de la caserne tout simplement, et ça s'est passé comme ça. Tranquillement, on pensait pas du tout que le film allait sortir un jour en Blu-ray. On pensait qu'il allait traîner sur une clé USB et que ça allait tout simplement ça, quoi. Voilà.
Alors, moi, je vais rappeler hein, pour nos auditrices et auditeurs qui n'auraient pas encore vu le film. Hein, c'est un film. Alors, ça part d'un postulat assez simple. Hein, on est près de Roche-le-Château. Il y a une forêt appelée la colline de la forêt noire. Et en 99, il y a quatre joggeuses qui disparaissent mystérieusement. Et en 2019, il y a le fameux Joseph Duplan, donc un spécialiste du paranormal, qui va avec son caméraman Jean-Flo de la Patelière mener sa propre enquête sur ces disparitions mystérieuses. Et là, il va aller évidemment de révélation en révélation. Alors ça, c'est l'histoire du premier occulte hein, qui se termine voilà. Sur un suspense. Voilà. Et dans la suite, on continue à suivre les aventures de Joseph Duplan. D'abord, le scénario, comment ça se passe? Comment te vient l'idée? Parce qu'en fin de compte, moi, je trouve que c'est très très malin d'avoir choisi cette forme du documentaire, du found footage, parce que du coup, même s'il y a des acteurs qui vont être moins pros que d'autres et tout, c'est pas très grave, parce que c'est pas censé être des acteurs.
Donc, c'est exactement pour ça qu'on a choisi ce style-là.
D'accord.
C'est parce qu'on savait tous qu'on était perfectibles. On n'est pas des acteurs nés, pas du tout. Donc il fallait quelque chose qui soit où on puisse se reconnaître sans que ce soit trop trop décalé. Tout simplement. Donc c'était le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était un found footage avec des réactions très naturelles des uns et des autres.
Et c'est aussi un film, alors toi tu l'as fait avec ton iPhone, hein, tu, lorsqu'on a échangé en préparant cette émission, tu me disais que c'est un film d'un budget de 250 €. Mais enfin, il y en a plus à l'écran quand même, parce qu'on sent que... il y a un peu d'effet pyrotechnique hein, dans les deux épisodes, il y a quelques plans qui sont assez impressionnants, comme ce plan qui se dirige sur une voiture en feu de nuit dans le deuxième opus. Ça a coûté 250 €, mais en fait, avec les copains pompiers, on arrive à faire des choses assez incroyable.
Exactement,
ça démultiplie le budget.
En fait,
quand même.
Voilà, exactement. On s'est servi un peu. Il y a un effet de synergie qui s'est installé et on s'est servi un petit peu de tout ce que tout le monde pouvait présenter, proposer pour faire un melting pot de tout ça et que ce soit vraiment efficace, quoi. Donc effectivement, on a un très très faible budget, mais on rattrape ça sur des endroits, sur des lieux, sur des techniques que pas forcément trouvé facilement dans d'autres circonstances.
Et moi, ce qui m'impressionne, parce que le film, ce qui est assez impressionnant en fait avec le film, pour une toute petite production, c'est l'énorme travail le découpage qui est très 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 travaillé. Est-ce que en amont, ça fait partie des points forts, on va revenir sur d'autres points forts des deux films, hein, d'ailleurs, hein, c'est des points forts des deux films. Est-ce qu'en amont, tout ça, tout ce découpage, tout ce travail aussi sur les différentes tailles d'écran, les différentes sortes de médias, à un moment, vous faites des parodies de chaînes d'infos, est-ce que tout ce travail-là, c'était déjà présent dès l'écriture?
En fait, non, il n'y a pas eu de vraie écriture. En gros, j'avais la trame du film, si tu préfères. Et puis après, j'ai collé les scènes en fonction des collègues et des copains qui participaient. Puisqu'en fait, il n'y a aucune personne extérieure aux copains, quoi. C'est que des pompiers, quoi. On est des pompiers. C'est que des gars de la même caserne. Et on a tous participé sur les deux films. Hein. Alors, il y a des anciens. Il y en a qui sont en retraite, qui sont revenus juste pour faire quelques scènes. Et moi, je savais globalement à peu près, sur un quart de certains, où ça pouvait matcher ou pas. Donc, je les mettais dans les scènes à peu près où ils se sentaient à l'aise. Et ça rendrait mieux.
Et est-ce qu'il y a eu un gros travail de repérage aussi? Parce qu'il y a quand même des lieux très atypiques. Alors oui, effectivement, il y a des sortes de souterrains à la fin du deuxième, ouais. Mais il y a plein d'endroits assez chouettes dans le film quand même.
Bah, les souterrains, c'est simple. On est à Provence, on est dans une ville médiévale. Donc il y a un caractère architectural qui est quand même présent. Et on en a profité au maximum. On a profité des souterrains, de la vieille ville médiévale. Enfin, de plein de choses qu'on avait à notre disposition dans un rayon d'à peu près 15-20 km, excepté deux scènes que l'on a faites, l'une en forêt de Fontainebleau, donc c'est un petit peu plus loin, il y a peut-être une quarantaine de kilomètres à peu près, et puis une scène, on a eu un coup de bol, c'est à Noisy-le-Grand, où on a pu tourner dans les anciens métros SK, qui sont désaffectés, qui vont être rénovés, qui sont en cours de rénovation actuellement.
Oui, avec tous ces wagons tagués, là, tout ça, ouais, c'est assez impressionnant.
C'est ouais. Exactement, c'est ça. Alors, en fait, moi, je voulais faire une scène, je m'étais dit, on va taper fort, on va essayer de faire une scène dans le métro à Paris. Et quand j'ai vu le budget, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est 15 000 euros à la journée. Enfin, je sais plus, enfin, ou 3 000 euros, je sais plus, mais c'était des prix. Je fais, c'est bon, c'est mort. Donc, on pourra pas. Et la personne que j'ai eue à ce moment-là au téléphone, quand je lui ai expliqué pourquoi on voulait filmer, etc., parce qu'ils te mettent en communication avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans les tournages dans les métros. Dans le métro, si tu veux, ils te présentent une station qui est désaffectée, etc. Moi, je lui dis, mais nous, on n'a pas le budget, on peut pas. Et en fait, cette personne-là m'a aiguillé vers la mairie de Noisy-le-Grand. On a pu bénéficier vraiment gracieusement d'un petit tournage d'une demi-journée, enfin une matinée, quoi. Donc ça, c'était vraiment un des points positifs, et on en a profité. On avait regardé aussi pour tourner dans les catacombes, tu vois, mais c'est pareil, c'est hors de prix, c'est 3000 euros la demi-journée. Puis bah nous, on est des amateurs, on n'a pas de pognon, on n'a rien. Donc faut bien trouver des subterfuges un petit peu pour... et puis trouver d'autres lieux, trouver des lieux sympas. Donc ça, c'était pas très difficile, en fait, puisque aux alentours, on a quand même ce qu'il faut au niveau, je disais, architectural pour présenter quelque chose de sympa, quoi. On a fait des scènes dans des vieux trains, je sais pas si tu te souviens. Et en fait, c'est des trains qui sont à l'Ajecta. Il y a une association qui s'appelle l'Ajecta, qui est à 15 km de Provins, et même pas 15 km. Et on y est allé, on leur a demandé si on pouvait filmer dans les trains. Ils nous ont sorti un train, un wagon sur une rotonde. Puis allez-y les gars, amusez-vous, quoi. Donc c'était vraiment des coups de bol qu'on avait, et on en profitait. On va dire ça comme ça.
C'est pour ça que quand on dit le film a coûté 250, enfin il y a eu deux films, hein, peut-être que le deuxième a coûté un peu plus, mais effectivement.
Exactement pareil.
Exactement pareil.
Pas le budget. Exactement pareil.
D'accord. Là, tu pourrais t'embaucher par Roger Corman, hein, parce que des films à 250 euros, Roger Corman signe tout de suite.
Mais bon. On vous dit, mais non, c'est pas possible. Mais on vous dit que si, en fait, le gros du gros, c'est passé dans le carburant, quoi, tout simplement. On a un gars qui fait des maquillages, qui est spécialiste de maquillage, il est moniteur de secourisme. Et il nous a dit, bah moi j'ai une valoche privée, j'ai tout ce qu'il faut dedans, et puis moi ça va m'entraîner. Mais en fait, il s'est entraîné à faire du maquillage sur les protagonistes du film.
D'accord.
Voilà, donc on faisait d'une pierre deux coups.
Écoutez Florian Goujon, réalisateur des films Occultes et Occultes 2023, au micro de Culture Prohibée.
Et Occulte comme Occulte 2023, c'est combien de temps de tournage à chaque fois? C'est combien de post-prod aussi?
Ouais. Le premier, c'est 9 mois.
Quand même, ouais.
Mais par contre, c'est très étalé. C'est-à-dire qu'on peut être 3 semaines, 1 mois pratiquement sans tourner, sans rien faire. Et puis on peut faire 3 scènes la même semaine. Par exemple, dans les 9 mois, il y a les vacances, il y a juillet-août. Pendant les vacances, on n'a pas filmé, quoi. Chacun prend ses vacances et puis voilà, quoi. Donc, il y a eu très, très peu de journées de tournage en juillet-août, de mémoire. Et l'Occulte 2023, par contre, c'était plus long. C'était 14 mois parce que là, on s'est dit, on va prendre notre temps, on va vraiment peaufiner les scènes, on va faire un truc vraiment chiadé. Et surtout, je voulais pas que ce soit, entre guillemets, inférieur à Occulte. Tout le monde trouvait qu'Occulte était sympa et je voulais pas faire quelque chose qui soit en dessous. Donc, il fallait au minimum que ce soit égal, voire même mieux. Donc, on a vraiment pris le temps de le sortir.
Mmh. Et la post-prod, ça t'a pris beaucoup de temps aussi en parce fait, qu'il y a un gros boulot quand
non,
même.
Mais non, même, mais en fait, c'est pas du tout parce que tu vois, je rentre chez moi le soir, de suite, je travaille des scènes, ça se fait très rapidement. Et en fait, c'est une passion, donc tu vois pas le temps passer. Ça, et je mets pas de temps, si tu veux, je regarde pas la télé le soir. Donc, je fais ça pendant une heure et puis je peaufine les petites scènes au fur et à mesure. Et puis, une fois que tout est fait, j'assemble tout et ça me dure pas très longtemps, quoi, tu vois. La dernière scène qu'on a fait, que ce soit pour Occulte ou Occulte 2023, 15 jours après, le film, il était déjà fait, quoi. Tout était fini.
D'accord. Et au moment où tu filmes, toi, t'as déjà en tête le montage, t'as déjà en tête ce que tu vas faire?
Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Mm. Par contre, tu vois, pour Occulte 2023, je me suis fait un peu surprendre, même beaucoup. C'est au niveau du temps. Le timing, je l'ai pas du tout pris en compte, puisque je l'avais pas pris pour le premier Occulte, pardon. Et on s'est aperçu qu'il faisait 1h47, et c'est vrai que c'était long, quoi. On s'est dit, mais il est long. On nous dit, oui, on s'en rend pas compte, ça passe bien et tout. Et pour Occulte 2023, bah, j'avais pas fait attention au timing, et j'ai Johan Diraison, l'acteur principal, qui me dit, mais Flo, là, on en est déjà à plus de 3/4 d'heure. Bah non, on en a pour 1/4 d'heure. Et en fait, je me suis fait vraiment dépasser et surprendre par cet aspect de temps. Donc on a une version de 2h17 que tu as vue, qui était peaufinée. Et là, on va essayer de la raccourcir un petit peu, la rendre un peu plus dynamique. Mais ceux qui ont vu la version de 2h17 de 2023 trouvent qu'elle passe très bien.
Hein. Oui, ça passe bien.
Longueur, mais ils me disent, mais non, mais en fait, on s'en aperçoit pas, quoi.
Ah, ça passe bien. Après, vu l'intrigue, ça pourrait même être découpé en deux films en même temps.
C'est ce qu'on nous a dit, ouais.
Voilà.
C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, on pourrait même faire une série de petits épisodes de 45 minutes et puis on assemblerait les deux films et puis voilà, quoi.
Comme c'est un peu l'idée d'une émission format émission paranormale sur le paranormal et tout, c'est vrai que ça pourrait être découpé en mode émission. Enfin, il y a plein de possibilités s'offrent à toi dans le montage, là.
C'est ça. C'est ce qui est ressorti après. On a eu effectivement ces échos en nous disant, mais ce serait peut-être bien de faire 45 minutes. Bah, trop tard, c'est fait un film, on va le garder dans le format dans lequel il est.
Surtout qu'à la fin d'Occulte 2023, rien n'empêche en plus Joseph Duplan de revenir. Hein.
Tout à fait. Bah, c'est même prévu. Hein.
Ah.
On va faire une trilogie. Mais tu vois, au départ, comme je te disais, l'Occulte, il devait rester sur une clé USB. Et quand on l'a diffusé un soir à la caserne, enfin, on ne l'a même pas diffusé un soir à la caserne, puisque Johan a récupéré la clé, il est allé carrément voir une salle de cinéma qu'on a à Provins et il a demandé au gérant si on pouvait le poster un matin et le regarder sur un vrai écran, quoi. Et le gars dit oui, direct. Il nous a rien demandé et je le remercie encore. Hein, c'est Aurelio Pinto qui nous a dit bah, les gars, allez-y. Et donc, on a pu le voir avec les copains dans une vraie salle de ciné. Mais c'était un truc de fou parce que c'était pas du tout destiné à ça à l'origine. Et une fois qu'ils ont assisté au visionnage, beaucoup sont venus en nous disant « Ouais, tu vas le sortir en DVD, tu vas le sortir en Blu-ray. » on s'est fait pareil. On tombait un peu de haut parce qu'on s'était dit « Mais jamais on fera un Blu-ray, un DVD. Qui contacter ?» On n'a aucune connaissance dans ce milieu-là qui pourrait nous chapeauter, nous dire et nous expliquer comment faire. Bah, du coup, on a fait une autoprod, on l'a sorti en Blu-ray, mais pour les copains de la caserne. Ce qui fait que, au départ, c'était encore, limité, c'était assez cloisonné. Et puis, du coup, les copains des copains ont regardé, ont voulu le Blu-ray, et on a fait des petites séries un peu plus importantes. Et puis, on s'est dit, au bout d'un moment, mais on va le distribuer, on va voir nous, et on va le distribuer via des copains, et c'est pas parfait, quoi.
Et donc, on le retrouve aujourd'hui, le premier, chez Beta Luna.
C'est ça. On sera suivi du deuxième, là, enfin du second, dans très peu de temps, normalement. Là, on est en train de compiler tous les bonus, donc il y a quand même pas mal de boulot.
Ouais.
Il y aura un bêtisier, il y aura un making-of, il y aura une petite scène en plus qu'on n'a pas mise. Enfin, il y aura beaucoup de petites surprises. On essaye de faire un Blu-ray qui soit vraiment conséquent, comme le premier qu'on a fait où vraiment ceux qui l'ont nous disent, mais franchement, ouais, c'est sympa, vraiment, il y a plein de trucs, il y a la musique, enfin voilà, quoi. Donc là, plein de surprises.
Ah ben, on a hâte de voir ça. Alors déjà, alors, je voulais te dire hein, que moi, Gérard Mandarin, ça m'a fait mourir de rire. Hein. Voilà.
Alors tout le monde. Hein. Quand on l'a vu, le collègue, on le connaît. Il a un peu le sosie de quelqu'un qu'on connaît bien, quoi.
Voilà.
Forcément. Et quand je lui ai dit, bah, j'aimerais bien que tu fasses ce rôle. Je me doute parce que tout le monde lui dit qu'il ressemble forcément à Gérard, tu vois, j'allais dire Mandarin, je vois, Darmanin, évidemment. Et donc, on a fait une petite allusion. Voilà, ça fait marrer. Alors, en fait, ça fait marrer les copains, ça fait marrer ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a aussi de l'humour sous-jacent, mais on va dire uniquement pour les copains. Et ils comprennent, tu vois. Il y a un moment, une carte bleue, il y a un code qui apparaît, c'est 8830. Et ça fait marrer les copains, évidemment, les autres qui ne comprennent pas. Mais il y a un petit clin d'œil, mais ça, c'est vraiment particulier.
Bah, écoute, en tout cas, moi, Mandarin, ça m'a fait beaucoup rire. Ne serait-ce que je me suis dit, mais pourquoi n'y avais-je jamais pensé ? Pourquoi ce n'est pas déjà le surnom de notre ministre de l'Intérieur ? En tout cas, donc, il y a un troisième qui est en cours.
Alors, il n'est pas en cours.
Il va avoir lieu, ouais.
Voilà. Là, on prend le temps de se reposer parce que ça a quand même été 2 années assez speed. Donc là, avec Johan, on a dit, on pose un peu les valoches et on se repose un petit peu et on prendra ça tranquillement, peut-être dans 6 mois, 9 mois, non, je ne sais pas, mais on va laisser passer l'été et peut-être qu'après on s'y remettra, mais tranquillement. Et là, on va essayer de faire quand même un truc qui soit vraiment de qualité, remettre un peu les pendules à l'heure, repartir de zéro pour faire vraiment quelque chose qui soit bien, quoi. Voilà. L'idée de base, elle est là, on sait ce qu'on va faire à peu près. D'accord. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le tube, quoi. Mais ça va prendre plus de temps, encore une fois, parce qu'on veut des scènes qui sont vraiment sympas et tout le monde y trouve son compte, quoi.
On a vraiment envie de découvrir ça, parce qu'effectivement, pour nos auditrices et auditeurs, hein, je tiens à le souligner, que souvent, on y va à reculons sur des productions indépendantes comme ça, où il y a souvent pas beaucoup d'idées de mise en scène, des comédiens moyens, pas d'étalonnage souvent, enfin des choses comme
c'est
ça. Là, c'est propre, là, je veux dire, c'est vraiment propre. Ah, il y a du boulot énormément en post-prod et tout, moi je trouve que c'est vraiment chouette.
On est conscient de nos limites aussi. C'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais refait quelques scènes différemment. On aurait demandé à un jeu. En fait, tu vois, quand on a fait Occulte, comme c'était pour les copains, les gars faisaient une scène. Et puis, ouais, c'était bon, on arrêtait là, quoi. C'était bon, terminé. Pour Occulte 2023, on a quand même peaufiné les scènes. On faisait répéter les personnages. Enfin, c'était beaucoup plus, beaucoup plus professionnel, quoi. Parce que là, on savait qu'on était attendu. Et puis, on a eu les répercussions aussi. Du premier opus, ceux qui ne nous connaissaient pas du tout, et puis qui nous ont dit, bah là, il y a ça qui pêche, il y a ceci qu'il faudrait peut-être un peu, faudrait faire attention. Donc on en a tenu compte, et c'est pour ça qu'Occulte 2023, on a essayé de mettre la barre beaucoup plus haut. On faisait répéter plusieurs fois les acteurs, les figurants, et pour vraiment avoir quelque chose de mieux, quoi, tout simplement.
On le dit aux auditrices et auditeurs, ils peuvent trouver donc le premier opus et bientôt donc le deuxième chez Metaluna. Il y a donc un troisième qui est en préparation, donc tu seras le bienvenu dans l'émission pour en parler, bien évidemment. Ça s'appelle Occulte. Ah bah oui, non, mais ça nous a vraiment bien plu. Ça s'appelle Occulte et Occulte 2023, donc. Alors tu fais le beau métier de pompier. Est-ce que tu aurais des tentations ou d'essayer de faire des choses peut-être plus professionnelles en termes cinématographiques ou ton métier de pompier te comble totalement ?
Bah, tu sais, moi, je ne suis pas très, très loin de la retraite. Donc peut-être quand j'arriverai en retraite d'ici 5-6 ans, 7 ans, peut-être que... Mais ce sera toujours une passion, je resterai dans le domaine du loisir, mais pas dans un domaine professionnel, je ne pense pas du moins, je ne pense pas. Ça nous suffit, on prend vraiment du plaisir, on n'a pas de production dessus de nous, en train de nous taper sur les doigts, en train de nous dire « Eh là, faut que la scène elle soit finie pour avant-hier ». Enfin, tu vois, là, c'était une passion, on n'a pas du tout subi de contraintes. Et ça nous suffit bien. Pour le moment, en tout cas, je ne me vois pas tourner avec un autre acteur que Johan Diraison, qui lui a aussi son boulot à côté. Donc, écoute, pour nous, ça se passe bien comme ça, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas dans ce système-là.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Nous vous rappelons que Occulte donc est disponible en Blu-ray, le film de Florian Goujon, à la boutique Metaluna, 6 rue Dante, à Paris, la boutique de l'ami Bruno Terrier que l'on salue. Et maintenant, on va un peu changer d'univers. Hein. On va aller voir notre ami Fabrice Mathieu. Alors, Fabrice Mathieu, c'est quelqu'un qui travaille sur des budgets plus conséquents, hein, qui a déjà une longue expérience de metteur en scène, qui a signé des courts-métrages qui ont été primés. Hein. Fabrice Mathieu, il a fait des études audiovisuelles à l'ESRA. Nous, on l'avait rencontré parce qu'il était le rédacteur en chef d'une émission sur les bandes originales de films. Donc c'est comme ça que l'on avait sympathisé. Et puis, il a réalisé des courts-métrages qui ont plutôt bien marché, comme Dr. Kill et Mr. Chance. Il a même participé à Babylon AD de Mathieu Kassovitz. C'est lui qui réalise la pub futuriste qu'on voit dans le film Eau de Mars. Il a aussi fait beaucoup de mash-up. Mais disons que pour moi, le film qui m'a le plus impressionné, c'est Mémoire vive. Hein, Mémoire vive qui est vraiment un film fait avec l'artiste Philippe Guéminier, qui est vraiment, un film assez impressionnant. Alors là, il nous revient, Fabrice Mathieu, avec un nouveau projet. Alors, depuis, il avait fait aussi un peu de mash-up, dont certains mash-up qui ont très très bien fonctionné sur le net. Et là, il nous revient avec un nouveau projet que l'on va aborder avec lui, donc, qui s'appelle Dans sa bulle. Donc Fabrice Mathieu, tout de suite, au micro de Culture Prohibée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Dans sa bulle et puis la campagne que vous avez lancée, qui a été un succès de ce que j'ai pu en voir. Donc, peux-tu nous en dire plus sur ce nouveau projet, ce nouveau film que tu réalises là en ce moment, à partir d'avril, voilà.
Voilà, bah oui, là on est en pleine préparation. Depuis, ça fait à peu près un an et demi que cette idée m'a traversé l'esprit. Et puis, c'est vrai que par rapport à mes différents projets, comme Dans l'ombre, où j'ai un autre projet de court-métrage aussi qui s'appelle Invisible, dans sa bulle, ça reste un petit peu dans le même esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression que dans mes histoires, je parle de notre société, je parle de nous, de l'humain, mais avec une forme fantastique et décalée, et Dans sa bulle ne déroge pas à la règle. Et c'est un projet que je voulais faire un petit peu moi-même. C'était au départ un petit projet, on va dire, par rapport à Dans l'ombre ou Invisible, qui sont des projets plus conséquents en termes d'effets spéciaux. Mais Dans sa bulle a aussi pris de l'ampleur au fil des mois, au fil des ans, au fil de l'écriture aussi, puisqu'au départ, c'est vrai que j'ai rencontré un jeune producteur, Sélénique Productions, qui avait vu Dans l'ombre, puisque donc j'ai fait une nouvelle édition de Dans l'ombre, de mon court-métrage, avec des images tirées de Blu-ray, tout ça pour vraiment avoir une version cinéma, projetable en salle, en grande salle. Et donc, j'ai rencontré ce producteur qui l'avait vu, qui était dans la salle, et puis on a discuté de différents projets, on s'est revus, et puis je vais parler, je vais envoyer le scénario de Dans l'ombre, sur le scénario d'Invisible aussi, peut-être un petit peu trop complexe et trop volumineux en termes de production, puisque lui, dans sa bulle, c'est son troisième court-métrage en tant que producteur. Et donc, j'ai sorti un petit peu cette idée de mon chapeau sans avoir spécialement le scénario. Bon, j'avais les grandes bases de l'histoire, donc je lui ai fait un pitch. Ça l'a tout de suite emballé. Ça a été le démarrage de l'aventure dans sa bulle. Donc au niveau du scénario, ça se passe dans un futur proche, un avenir proche, très pollué, dystopique, une société plutôt dystopique et à l'architecture brutaliste. C'est un petit peu les grandes lignes visuelles et artistiques. Et dans cet univers pollué, dystopique, les gens sont obligés pour survivre, de vivre dans des bulles de savon, la tête complètement entourée par une bulle de savon, high-tech, je dirais, c'est-à-dire avec beaucoup de technologies, c'est-à-dire beaucoup d'informations qui viennent aussi apparaître sur cette bulle, notamment des informations qui viennent directement de cette société dystopique qu'on peut voir dans d'autres films. Et les humains et les animaux, pour survivre, sont obligés de vivre, de porter cette bulle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir survivre. Et dans cette société, on suit le parcours un petit peu d'un homme et d'une femme qui vont un jour se rencontrer accidentellement, et leurs bulles vont fusionner, et donc en ne formant qu'une autour de leur tête, de leurs deux têtes. Puis s'ensuit d'autres aventures, et j'espère des petits messages aussi liés à l'écologie, à notre société qui devient de plus en plus individualiste aussi, par rapport à tous les écrans qui nous sont proposés, et le virtuel, et l'intelligence artificielle, tout ça. Donc c'est un mélange à la fois pour parler de l'individualisme grandissant de notre société, de l'écologie également, tout en parlant, en essayant de faire une histoire poétique et qui finit bien, j'espère.
Qui finit bien ou mal, on verra. C'est seul toi le sais, de toute façon. Tu ne vas pas nous révéler tous les secrets de ce court-métrage, moyen-métrage à venir. Comment tu le vois ? Sera plutôt un moyen-métrage dans un style plutôt sombre ou plutôt lumineux ? Comment tu vois les choses ?
C'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes. À la fois sombre et plein d'espérance, quelque part. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Vous écoutez Fabrice Mathieu au micro de Culture Prohibée.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Fabrice Mathieu, donc tu viens de nous parler de Dans sa bulle, ton nouveau court-métrage, donc que tu vois comme à la fois sombre mais avec des touches d'espoir. Voilà, bon, on a très hâte de le voir. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe du film, qui m'a l'air d'être une équipe que tu as réuni une équipe, comment dire, d'un haut standing. Je crois que là tu es particulièrement fier de l'équipe que tu as réunie pour ce film.
Non seulement fier, mais également touché personnellement par tous les membres de l'équipe du film, parce que bon, pour la plupart, ils ont accepté très vite de rejoindre cette aventure remplie de bulles, que ce soit les comédiens, que ce soit le compositeur, la décoratrice. Bon, tous ont répondu présents, sans spécialement avoir lu le scénario au préalable, juste en leur parlant de l'histoire. Et puis bon, bah pour la plupart, c'est vrai qu'ils connaissaient déjà un petit peu ce que j'avais fait au préalable et appréciaient aussi mon travail. Donc voilà, en tout cas, bon, ça a été très, très touchant de leur part de pouvoir comme ça me dire oui sans spécialement en savoir plus, rien qu'en leur donnant les grandes lignes de l'histoire. Donc et puis en parallèle, il y a eu d'autres coproducteurs aussi qui se sont joints à l'aventure, notamment un loueur de matériel, Cosmic Vidéo, sur Paris, qui se lance cette année dans la coproduction, en mettant à disposition tout le matériel également. Et voilà, donc ils ont fait un appel d'offres auquel on a soumis le projet Dans sa bulle, et ils ont été également emballés et nous mettent à disposition tout le matériel dont on a besoin pour ce court-métrage. Notamment, on va tourner avec la dernière caméra Sony, la Burano, là, qui est la version compacte de la Venice. Voilà, pour moi, c'est la première fois où j'utilise du matériel aussi pointu, du matériel cinéma. Il faut, voilà, donc ça fait. Donc ils ont été vraiment, vraiment emballés. Et puis ils produisent 6 films de genre. Donc c'est vrai que le film de genre et le court-métrage de genre, c'est pas évident encore à produire en France. Mais eux, voilà, ça a été leur appel d'offres, c'est-à-dire produire et à la fois des courts-métrages d'horreur, des courts-métrages fantastiques. Donc on fait partie de ce lot, donc c'est formidable. Et donc au-delà des gens, des comédiens comme Emmanuel Cousin, Zuriez de Pelloin, Anouchka Tsernakova, qui m'ont vraiment dit oui tout de suite, bon, j'ai aussi aussi le soutien de plein d'amis de plus de 30 ans qui répondent toujours présents et qui sont toujours là à mes productions plus ou moins farfelues. Et bon, ça, c'est vrai que c'est aussi ça n'a pas de prix, quoi, d'avoir aussi des amis qui sont là, et je crois que c'est primordial. On peut pas travailler, voilà, on fait du mash-up toute sa vie, quoi, mais de manière solitaire. Mais voilà, donc c'est ça a été aussi formidable de voir tous ces amis qui ont répondu présents, poser, voilà, en plus on tombe pendant les vacances de printemps, donc poser leur journée, poser leur temps pour vraiment partir dans cette aventure particulière. Donc bon, je suis vraiment très heureux en tout cas de tout ça. Et puis d'autres personnes avec qui j'étais en contact depuis depuis quelque temps, comme Mathieu Alvado, qui est le compositeur, on a toujours suivi son parcours, et là c'est pareil, bon, c'était une volonté de ma part de travailler vraiment avec certaines personnes, et là c'est pareil, j'ai eu les portes grandes ouvertes, et c'était formidable.
Écoutez Fabrice Mathieu, réalisateur de Danse à Bulles, au micro de Culture Prohibée.
Complément aussi de toute cette partie humaine, technique, donc on a fait aussi un financement participatif pour permettre de pouvoir combler les trous au niveau du budget, c'est-à-dire avoir un studio de tournage, utiliser. Bon, moi j'ai des feuilles de décor qu'on va utiliser, mais bon, en termes de décor, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi on a la chance d'avoir un studio de tournage pour monter trois décors dans lequel on va monter des feuilles et puis. Mais bon, disons qu'après, il faut aussi faire toute la partie. Fignoler toute cette partie décor, moquette, peinture, accessoires, des lits, donc des éléments de décor, des fonds verts également, parce que nous on va y avoir aussi pas mal d'incrustations à faire, et à la fois à l'intérieur même des décors, mais aussi des fonds verts complets pour faire passer aussi pour avoir des figurants, pour pouvoir après les faire évoluer dans des décors naturels. Et puis, on va aussi transformer une boutique de cordonniers, là on va la transformer en boutique de boule à neige, parce que le héros, lui, travaille dans cette boutique de boule à neige, et on a eu la chance d'avoir une collectionneuse de boules à neige, une kionosphérophile qui viendra de Montluçon avec plus de 200 boules à neige pour pouvoir après installer tout ce décor qui j'espère va être merveilleux dans cette cordonnerie qu'on va transformer donc en boutique de boules à neige où là il va y avoir la rencontre entre entre les deux protagonistes principaux du film. Voilà, donc plein d'éléments qui font plein de feux verts qui se sont alignés les uns avec après les autres pour nous permettre de mettre en chantier et de voir ce projet qui en tout cas pour l'instant avance bien, et on va tourner donc du 9 au 18 avril et on prépare toutes les décos avant, donc voilà, ça va être bien occupé du 4 au 19 avril, même si on l'est déjà depuis quelques temps, puisque au niveau préparation, plan de travail et tout ça, voilà, y a énormément de choses à faire et à mettre en boîte.
Je crois que tu nous as livré pas mal de secrets donc de ton nouveau film Dans sa bulle. Ouais. Donc on rappelle, Fabrice Mathieu, tu es le réalisateur de Dans sa bulle. Comment on fera pour voir Dans sa bulle? Ce sera ma dernière question, mais si on a envie de voir Dans sa bulle une fois qu'il est terminé, comment fera-t-on, mon cher Fabrice?
Alors, une fois qu'il sera terminé, déjà, bon, il va y avoir pas mal de post-production à venir... pas mal d'effets spéciaux, justement, bon, les bulles ne seront pas présentes au moment du tournage, après ces bulles seront intégrées par la suite en post-production, et puis pas mal de compositing aussi par rapport à des éléments de décor brutalistes, voilà, bon, il y a tout un univers à créer, donc il y a énormément de travail après au niveau de la post-production, un travail sonore également, la musique à composer, voilà, donc là on n'en est qu'au début de l'aventure, même si ça fait déjà un an qu'on travaille sur la préparation, le scénario et le découpage, scénario d'ailleurs que j'ai coécrit avec là aussi un ami de longue date qui est romancier et réalisateur également, Christophe Lambert, que je n'ai pas cité, donc voilà, il y a plein de choses, plein de bonnes ondes en tout cas autour de ce projet, donc j'espère que ça va continuer. Après, pour le voir, bon, ben ça sera le circuit habituel des courts-métrages, c'est-à-dire bon, ça va être on va tenter bien sûr les festivals en espérant que ce court-métrage plaise et soit sélectionné, puisque maintenant c'est vrai que c'est quand même compliqué, déjà c'est une victoire quand on est sélectionné, parce que les festivals en reçoivent tellement, plusieurs milliers à chaque édition, donc c'est très compliqué déjà d'être sélectionné, et puis voilà, donc de pouvoir le montrer le plus possible, peut-être après des achats en termes de chaînes de télévision, bon là c'est quand même un petit peu plus compliqué, puisque c'est encore plus... La demande est très forte et l'offre assez restreinte. Donc, mais bon, voilà. Donc, pour le voir, je pense que ça sera en premier lieu les festivals ou alors des soirées aussi où je pourrai présenter mes différents films également, comme tu as eu la gentillesse de le faire par le passé. Donc voilà, mais pour l'instant ça sera ça, et Internet ça sera vraiment en dernier lieu, quoi. Donc Internet, il sera sur Internet que dans 2 ou 3 ans, quand vraiment il aura fini, je l'espère, une carrière en festival.
C'est tout le bonheur qu'on souhaite à ton film, à Fabrice Mathieu. Donc je rappelle que le film de Fabrice Mathieu s'appelle Dans sa bulle, et que vous pouvez en apprendre plus en allant sur le site de ProArty, hein, qui a mis en place cette campagne pour soutenir Dans sa bulle. Oui. Vous aurez là un maximum d'infos sur le film. Et mon cher Fabrice, vous avez aussi une page Facebook pour ce film, si je ne m'abuse.
Absolument. Donc, si vous voulez suivre un petit peu toute l'évolution de cette aventure, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook pour avoir toutes les infos et le suivi du tournage, là, qui est de la construction des décors, qui commence le 4 avril jusqu'au 19. Et voilà, pour après, de temps en temps, voir un petit peu l'évolution, les propositions en termes d'effets spéciaux. Les premières images, il y aura du making-of aussi, pas mal de personnes vont être là pour faire plein de photos et de vidéos qu'on aura le plaisir de partager, bien sûr, à ceux qui suivront de près cette aventure.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, avec à la technique The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.